Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Non mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'ordre
de mettre.
On ne connaît pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallais le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues paroles,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu as forcément touché les jamais tombés en panne de poste. Tu dis tant que je connais pas. C'est quand même curieux, non? 100 fois, tu dis jamais, 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 jamais.
Aujourd'hui, mercredi 27 mai, c'est la Sainte Tribune Construisons l'Avenir. Sainte Tribune Construisons l'Avenir est la sainte patronne des entomologistes de la toute petite politique aérie, des naturalistes de l'infiniment petit, des spécialistes de la gauche plus rien. Certes, la canonisation de Sainte Tribune Construisons l'Avenir est passée inaperçue du regard des masses qui ne sont absolument pas concernées par la petite cuisine électoraliste d'une social-démocratie qui n'en finit pas d'agoniser. Au moment où le capital, furieux, criminel, assassin, déploie les ailes noires de ses contradictions mortelles sur l'humanité tout entière, au moment où ces hommes de main s'apprêtent à de nouveau abonder par milliards d'argent public le puits sans fin du profit privé, il n'y a qu'une toute petite frange de la population qui puisse trouver intérêt à construire l'avenir ensemble, un avenir citoyen et participatif, écologiste et social, respectueux des valeurs de la République et de l'environnement, pour une Europe sociale et un monde plus juste. Enfin, construire ensemble, avec des miettes de parti, une société de miettes. Si notre adversaire la finance, qu'on s'en laisse ruisseler, mais on va lui demander poliment. De toute façon, c'est ça ou le populisme de Mélenchon. Ah non, il faut sauver la gauche. Au moment où les plans de relance déboulent avec leurs centaines de milliards pour sauver les capitalistes d'eux-mêmes et leur permettre de licencier et de continuer à surproduire et de placer le pognon où ça rapporte, c'est-à-dire dans la nuit sidérale d'une bulle qui surplombe nos existences, le même réflexe de survie a saisi d'autres accompagnateurs de gauche du désastre, puisque la Confédération européenne des syndicats, présidée par la CFDT, avec le concours étonnant de la CGT, en appelle également au sauvetage de sa petite gauche à elle, ses petits intérêts bureaucratico-renégats, sauvetage déguisé en sauvetage de l'Europe sociale. Et c'est vrai que ça passe mieux que sauvetage du patronat européen, hein. Mais revenons aux moutons politiques de la social-bourgeoisie, ceux qui broutent l'herbe verte du capital lorsque la droite est mise en jachère et qui, ma foi, tondent aussi bien le travailleur que n'importe quel ex-gaulliste néolibéral. Issus de la gauche dispersée façon puzzle, les signataires voient loin pour le jour d'après. Construire l'avenir. Construire l'avenir, un slogan d'une grande force qui aurait pu être celui d'une campagne publicitaire d'AXA, du Crédit Agricole ou de Bouygues. Il y a encore ces gueulards dans le coin, on dirait, non ? Construire l'avenir. C'était bien le moment, tiens. Si la gauche propre sur elle, euro-compatible et mi-chèvre mi-chou voulait exister encore, en dépit de son anachronisme patent, le moment était bien choisi. Tirer un trait sur le passé, c'est à la mode et c'est dans ses habitudes. Tirer un trait pour retrouver le grand élan généreux qui permet de... retrouver un strapontin ministériel pour privatiser, réprimer, servir le patronat, quoi. Mais avec du rose, avec une petite pointe de rouge aussi. Et beaucoup, beaucoup de vert. Ouais, la gauche, comme ils disent, la gauche sera demain, à l'avenir, définitivement biodégradable. Valo Belkacem, Jadot, Brossa, Glucksmann, Édouard Martin et Bernard Thibault, Pierre Laurent et Corinne Lepage. Ça y est, les primaires sont lancées et on n'a que le choix de l'embarras. Hein. Mais bien sûr, le grand risque, c'est de voir le populiste Mélenchon casser cette belle dynamique et diviser la gauche. Pff, vraiment, quelle occasion gâchée alors. Il y avait un si beau programme de gauche. Mais comment qu'on va construire l'avenir maintenant, hein? Parce que, réfléchis, si la gauche, elle passait, il y aurait sûrement eu, encore, dans le prochain gouvernement, un ministre comme Macron pour prendre le relais après. Ouais. Putain, Mélenchon, merde. Aujourd'hui, mercredi 27 mai 2020, le soleil s'est levé. Il croyait au grand souffle d'espoir sur l'avenir. Il va se coucher avec des pavés bien intentionnés pour un enfer climatisé. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, lors ton quart du collège, passe pas par opéra, rappé pour le solfège.
C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur.
C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, la famille Masson, râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon.
C'est peut-être Van Gogh,
grave des ailes sur la porte des gogues avec son opinel. Jamais on le saura, râper des tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être certain, le monde devant l'école qui recolle ses dents à coups de lapidole. Jamais on ne saura, chaos pour ses 20 piges dans le ring de ses draps, en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le monde de la Tour Neuf, Napoléon présume, un gros affaire bœuf. On ne saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît. 100 millions font cortège.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus comme tous les mercredis à cette heure-ci, ou à peu près. Ce soir, nous vous proposons d'écouter Cédric Hafner. Cédric Hafner est un salarié de chez Aldi de Libercourt. Il est à la CGT. Il a été interviewé par notre camarade Seb de l'émission Au Passo Rouge, que vous pouvez retrouver le lundi à 19h sur cette même antenne. Vous entendrez également Yann Dufour. Yann Dufour est inspecteur du travail et il est à la CGT. Il parlera du travail pendant le confinement et puis le travail depuis la fin du confinement, le retour au boulot. C'est du son qu'on a piqué à Radio Zinzine. Et vous entendrez également Isabelle Bossement de la CGT du CHU de Lille. CGT, mais on l'a pas fait exprès. C'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
C'est l'heure de le mettre sur Radio Campus avec Isabelle Bossement, donc, qui est secrétaire générale du SMIC, de CGT, du CHU de Lille. On va dire une militante CGT qui travaille à l'hôpital, qui est représentante du personnel à l'hôpital, et qu'on a entendu sur cette antenne, eh bien, pendant le confinement, hein, qui a duré assez longtemps, et qui, à l'époque, nous alertait quand même sur une forme d'anarchie, on peut dire, d'anarchie du système hospitalier confronté à cette épidémie, parce que aucun moyen, aucune prévision, etc., etc. On en est où là maintenant, Isabelle ?
Alors, je parlerai pas d'anarchie, hein, je parlerai de brutalité dans une réorganisation qui était nécessaire et qui était inattendue. Et voilà, les collègues ont fait la preuve de la capacité quand même des travailleurs à s'organiser et à savoir répondre à de gros enjeux et aussi brutalement. Donc on en est où ? Ben on en est à cette période où ce qu'on pourrait appeler la crise, ou en tout cas le pic de la crise du Covid-19, est en descente, puisque ça fait déjà trois semaines qu'on voit quatrième semaine, il y a eu un plateau d'hospitalisation, et puis une baisse qui s'est amorcée il y a quatre semaines et qui continue de descendre, que ce soit sur des services de réa ou sur les services de médecine classique de Covid. Les collègues des urgences qui nous signalent qu'ils ont quand même toujours des entrées, mais avec toujours plus de sorties que d'entrées, donc un solde négatif, en tout cas, de patients Covid à l'hôpital.
Est-ce que ça veut dire que donc, les personnels soufflent un peu, si je puis dire ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on souffle au sens où la situation est de fait moins stressante, puisque on n'est plus dans cette réorganisation quasiment au pied levé, qui est très déstabilisante et ce stress lié à tout ça, parce qu'une fois que c'est organisé, ça roule, quoi. Hein. Donc on a eu les trois premières semaines qui ont été très oppressantes, parce qu'il fallait s'organiser quasiment au pied levé et répondre aux besoins. Et les besoins, on les connaissait pas à l'avance. Hein. On a eu très peur d'avoir un phénomène comme ils ont pu l'avoir en région parisienne ou dans le Grand Est. Donc ce phénomène de vague qui s'est dans notre territoire, mais qui s'est pas produit dans notre territoire. Mm-hmm. On n'a pas forcément d'explication encore aujourd'hui, mais le recul et l'analyse qu'on doit avoir va nous permettre d'expliquer ça. Hein. Il n'y a pas de raison, hein. on n'est pas en dehors du monde, donc on n'a pas eu ce phénomène comme d'autres territoires, donc on n'a jamais été, on a toujours eu des marges d'aménagement de services pour pouvoir accueillir de nouveaux patients. On n'a pas été submergé comme ça a pu l'être ailleurs. Donc à partir du moment où on s'est rendu compte de ça et puis qu'on a traversé un plateau, hein, donc c'est-à-dire un nombre d'hospitalisations relativement stable et qu'on a amorcé un peu la baisse des entrées en hospitalisation, bien sûr que la tension est redescendue, c'est sous une autre forme. Là maintenant, la préoccupation, c'est la reprise des activités qui ont été fermées, déprogrammées, parce que quand Édouard Philippe dit l'hôpital n'a jamais été submergé, on a un outil formidable, il faut pas oublier qu'on a annulé, supprimé et mis de côté 60% de l'activité des hôpitaux pour pouvoir répondre à cette crise de Covid. Parce que si on faisait pas ça, on n'avait ni les lits, ni le personnel, ni le matériel pour répondre à la crise. Donc il y a un tas de patients hein, qui avaient des consultations et des interventions programmées. Qui se sont vus annuler leurs rendez-vous et leurs hospitalisations et reporter à l'après-crise Covid. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois de gérer le reste de la crise Covid qu'on traverse, mais aussi de reprendre les activités avec les patients qui sont restés sur le côté durant ces semaines. Donc on est sur une autre forme d'enjeu. Où il faut trouver une organisation relativement équilibrée parce que le CHUVIL, c'est énorme, hein, c'est 16 000 agents qui y travaillent, c'est des dizaines de milliers de patients par jour et on peut pas se permettre non plus dans l'immédiat d'avoir autant de flux de personnes à l'hôpital sans prendre le risque aussi que du coup l'hôpital devienne peut-être la première source de contamination. Ben ouais.
Mais justement, est-ce que vous avez une idée parce que vous, quand je dis vous, c'est vous les militants en CGT, hein, puisque on est avec toi, du nombre de contaminations des personnels soignants. Je sais bien qu'il n'y a pas les tests, mais
alors les tests ont commencé il y a 3 semaines. La question c'est de quel test on parle et puis surtout de la politique de tests qui a été développée au CHUVIL, qui n'est pas forcément celle qui a été faite partout. Donc chez nous, la médecine du travail a décidé dans un premier temps, à partir du moment où on a commencé à pouvoir tester les personnels, ça a été de tester en priorité les personnels qui avaient déclaré des symptômes. Donc on se retrouve avec des chiffres sur cette période de test à 20% de contamination du personnel hospitalier, donc 20% de positifs. En sachant que c'est une population qui avait développé des symptômes. Donc, c'est pas forcément la réalité de l'ensemble de la population hospitalière. Et puis, deuxième bémol sur ces tests, c'est qu'on sait aussi que il y a plusieurs facteurs qui font que un négatif peut être un faux négatif, c'est-à-dire que les tests sont pas fiables à 100%. Donc, c'est pas parce qu'on fait un test et qu'on a un résultat négatif que visiblement, on n'a pas eu le Covid.
Ouais. La question du matériel.
Donc, en tout cas, il y a une surcontamination de la population hospitalière, puisque ça a été la première au front et pas la mieux protégée. Donc,
pas la mieux protégée, oui, parce que la question du matériel, lors de ta dernière intervention sur notre antenne, on était vraiment au moment où, on venait de sortir de l'idée qu'il fallait pas de masque. il fallait que les masques soient obligatoires, mais bien évidemment prioritaires pour les personnels hospitaliers. Et à ce moment-là, à ce moment où on se parlait, tu te faisais l'écho finalement de ce qu'on voyait un petit peu partout, c'est-à-dire des personnels hospitaliers qui travaillaient sans masque, sans surblouse, etc. Quelque part pour pallier le défaut de l'État, et il y a des scandales sans doute qui arriveront par la suite pour les illustrer, une solidarité des gens qui ont fabriqué des masques, y compris au CHU de Lille, on a vu. Sur cette question des masques, est-ce que finalement le pouvoir a tenu ses promesses ou pas?
Donc non seulement il n'a pas tenu ses promesses, mais en plus on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un énorme mensonge derrière les stocks de masques. Donc, en fait, nous, on s'est rendu compte très rapidement que les recommandations de port de masque notamment FFP2, étaient réduits au strict minimum en disant que quand, face au Covid, il n'y avait pas besoin forcément de porter des FFP2. On n'a jamais été d'accord hein, sur ces recommandations, puisque tous les virologues qui se sont prononcés sur ces questions-là avant février 2020 préconisaient pour les coronavirus des FFP2 dès l'entrée dans la chambre d'un patient suspect coronavirus. Mmh. Et puis à partir du 4 mars, on ne sait pas pourquoi, alors on s'en doute pourquoi, hein. Toutes ces recommandations ont changé en disant bah non, finalement, il n'y a pas besoin de FFP2, on va juste les donner au personnel qui travaille dans les unités Covid. Les autres qui ne sont pas dans les unités spécifiques Covid, vous pouvez bosser avec du masque chirurgical. Sauf que le véritable problème avec le Covid, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'on pouvait très bien être un patient porteur du Covid sans développer de symptômes et être contaminant. Et donc, il s'est produit ce qui était prévisible à l'hôpital, c'est que dans des services qui n'étaient pas spécifiques au Covid, on trouvait des patients hospitalisés et dont on découvrait 48 heures, 72 heures après, en fait, ils étaient Covid, mais il était trop tard, le mal était fait, le virus était là, et les collègues qui, pendant ces 48 ou 72 heures, ont dû travailler avec ce patient, n'ont pas eu les équipements de protection à la hauteur des besoins et de l'enjeu. Donc là, du coup, sur la politique de test de l'établissement, ça devrait aussi nous permettre de vérifier que finalement, il y a peut-être plus de contamination d'hospitaliers dans les secteurs qui n'étaient pas Covid que dans ceux qui étaient Covid, parce que nécessairement, on s'est dit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas suffisamment de masques FFP2, bien sûr qu'on va les donner en priorité au personnel qui est dans les unités Covid. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où le gouvernement a annoncé un déconfinement à partir du 11 mai, ben d'un coup, il y a des stocks de masques qui sont apparus. Donc moi, je le dis, ce sont des copains hein, de la CGT, notamment de la métallurgie du territoire, qui m'ont appelé en me disant voilà, ils vont reprendre l'activité chez Renault, chez Bombardier, etc. Ils ont réuni des CSE et ils nous ont annoncé qu'on avait 10, 20, 30 000 masques FFP2 d'avance pour pouvoir assurer la reprise. Et donc, les masques FFP2, il y en avait en stock, il y en avait en stock dans les industries, alors que nous, les personnels hospitaliers, on était toujours au front, on était toujours en train de gérer cette crise Covid et on n'en avait pas. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, ces camarades-là nous ont fourni une info qui était essentielle, importante, qui montrait une trahison supplémentaire, hein, s'il en fallait une vis-à-vis des hospitaliers dans ce pays et avec ce gouvernement. Donc là, on a déposé hein, la semaine dernière, nous, un recours en référé au Conseil d'État pour dénoncer cet état de fait et demander la réquisition des masques FFP2 partout sur les activités non indispensables à la gestion de la crise pour pouvoir équiper en priorité les personnels soignants qui sont restés.
Bah, il serait temps, parce que là, on est quand même sur la fin, me semble-t-il, de l'épidémie. Alors, on va pas en rester, Isabelle, si tu veux bien, à l'aspect... parce qu'il y a un événement, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'était pas attendu. Hein, mais on voit quand même que certains États, certains gouvernements à travers le monde n'ont pas agi de la même manière que la France et qu'il y a sans doute des leçons à tenir, des leçons politiques. Politiquement, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand on s'est eu la dernière fois au téléphone sur campus, on était en plein dans les applaudissements à 20h des citoyens français qui applaudissaient les personnels hospitaliers. Autour de moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça applaudit beaucoup moins. Hein, c'est pas vraiment la question, parce que derrière, bien sûr, on a eu Macron et tout le gouvernement qui ont essayé de reconnaître le travail fait, qui ont dit les choses vont changer. Le jour d'avant ne sera pas, enfin le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. La santé ne ça peut pas être une marchandise, etc., etc. Et puis là, on voit arriver donc un projet de dialogue social, je pense, hein, qui s'appelle Ségur, hein, donc ils ont choisi Nicole Notta pour le piloter. Ouais, non, tu rigoles.
Tout y est, ouais.
Mais sérieusement, est-ce que cette reconnaissance du travail hospitalier, que ce soit à la fois en termes de salaire, mais de moyens aussi, de moyens de services publics, est-ce que, comment tu la sens venir?
La véritable question, c'est est-ce qu'on est prêt à tout mettre sur la table et à véritablement sortir d'un hôpital qui fonctionne sur de la rentabilité, de la productivité, d'un fonctionnement où finalement le financement de l'hôpital public, c'est une enveloppe fermée et la décision de d'octroyer une enveloppe, enfin un montant ou un pourcentage du PIB, et de dire aux hospitaliers, voilà, on vous file cette enveloppe-là et démerdez-vous pour organiser les soins et pour répondre aux besoins de la population. Est-ce que véritablement on change tout à la base, c'est-à-dire qu'on repart sur une évaluation des besoins de la population par territoire et du coup d'une enveloppe qui s'adapte pour répondre à ces besoins et non pas des besoins qu'il faut faire rentrer dans une enveloppe. Donc, il faut tout renverser. Il faut renverser complètement l'idéologie qui a été développée depuis 30 ans sur le financement de l'hôpital public, parce que la véritable question politique, elle se trouve là-dedans. Comment on finance l'hôpital public ? Et est-ce qu'on est toujours d'accord pour que ce soit sur les cotisations sociales et donc sur la répartition des richesses et sur la justice sociale où tout le monde participe selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins ? Est-ce qu'on est prêt à remettre ça sur la table ? Pour l'instant, il y a eu une première réunion là cet après-midi, puisqu'on est lundi, donc on n'a pas encore les retours. On sait aussi que c'est pas seulement dans les réunions que ça va pouvoir se construire et que si les hospitaliers sont pas à nouveau en alerte sur le sort qu'on leur réserve et sur le sort qu'on réserve à l'hôpital public, puisqu'il y a la question des salaires, c'est vrai, on va pas se mentir aujourd'hui. On n'arrive même plus à recruter à l'hôpital parce que les salaires sont bas par rapport, sont trop bas par rapport à des conditions de travail qui sont trop pénibles. Donc on n'arrive plus à recruter et puis le peu qu'on recrute ne reste pas de toute façon. La durée de vie moyenne d'une infirmière à l'hôpital public là maintenant, c'est 5 ans. Sort de l'école, elles viennent, elles voient 5 ans et elles font autre chose parce qu'elles sont déjà écœurées, usées. Donc c'est aussi la question des conditions de travail. On peut payer tout ce qu'on veut, si c'est pour faire de la merde, les gens ne resteront pas.
On peut payer tout ce qu'on
veut. Surtout quand on travaille dans le soin, quoi.
Ouais. On peut payer tout ce qu'on veut, encore faudra-t-il voir s'ils vont vraiment payer tout ce qu'on veut, parce que.
En plus.
Oui, parce que là.
En plus.
Et là, je m'adresse
à. Ce qui est inquiétant, sur cette question-là, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont déjà en train de parler des carrières des soignants et des carrières dans les EHPAD. Donc, ils sont déjà en train de diviser le monde hospitalier entre ceux qui sont soignants et ceux qui le sont pas, parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas que des soignants. Hein. Pour faire tourner un hosto, il y a un tas de services qui sont interdépendants et qui ne sont pas constitués que de soignants.
Bien sûr.
Il y a des blanchisseuses pour faire le linge, il y a des femmes de ménage pour faire le ménage, il y a des administratifs pour prendre les rendez-vous, programmer les opérations. Il y a un tas de personnel.
Est-ce qu'ils seraient pas capables, ceux d'en face, de nous sortir des trucs du style on va redéployer des moyens, c'est-à-dire moins d'administratifs, moins de et plus de soignants, dans le même périmètre, si je puis dire, quoi, sans développer le service public avec des effets d'annonce du type.
Je sais pas tout ce qu'ils ont dans la tête, hein, peut-être que si
c'est pas dans la tête, c'est dans la poche.
ce qui laisse quand même sous-entendre depuis 2 semaines, c'est que on a quand même un problème d'organisation à l'hôpital. Donc là, on croirait entendre Madame Buzyn, qui depuis des années nous dit c'est vrai, il y a un problème à l'hôpital, c'est un problème d'organisation, c'est pas un problème de moyens. Donc on a cet écho qui revient là très rapidement en disant oui, il faut revoir les salaires, il faut revoir les carrières, mais il faut aussi revoir l'organisation et notamment le temps de travail.
Ouais.
Alors moi, je vous le dis, visiblement, les hospitaliers, ils n'ont pas l'intention de sacrifier leur temps de travail parce que déjà aujourd'hui, on est rappelé les dimanches, on est rappelé la nuit, on est rappelé les fériés, on laisse les familles de côté. Je pense que les hospitaliers n'ont pas envie de lâcher quoi que ce soit
sur
leur
question.
Temps de repos. Hein, sur leur temps de repos. Parce que
Alors,
le temps de travail, mais la question, c'est le temps de repos.
Ouais.
Donc, si à un moment, ces revalorisations de carrière ou revalorisation salariale, pardon.
Elles doivent s'échanger contre du temps de repos, hein.
Du temps de repos.
Ça passera pas.
Je suis pas sûr que ça m'a, non, je pas, enfin, j'espère pas parce que là, mais parce que là, on a une durée de vie d'infirmière qui est de 5 ans et qui sera de 2 ans l'année prochaine.
Quoi. Ouais, ouais. Alors, dis-moi, le temps passe, hein. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes le lundi 25 mai au moment où on se parle, hein. Et, je voudrais qu'on termine sur les mobilisations à venir. Je sais que on a parlé de rendez-vous de la colère chaque mardi, y compris donc demain, c'est-à-dire hier pour nos auditeurs, j'espère qu'ils suivent. Donc j'aimerais que tu nous parles de ces mobilisations, mais surtout j'ai entendu parler d'un appel national le 16 juin, hein, un appel intersyndical le 16 juin. Et je vois hein, sur les réseaux sociaux notamment des gens qui relayent ça, qui relayent cette date, parce que cette colère des soignants, il me semble, mais je parle à une cégétiste, je pense qu'elle va comprendre ce que je veux dire, il me semble qu'elle ne se limite pas aux soignants finalement, et que cette date-là, eh bien, beaucoup de travailleurs d'autres secteurs ont envie de s'en saisir, parce qu'il y a à la fois l'idée du bien réel du soutien à ces personnels qui ont payé le prix fort, plus que d'autres. Et puis l'idée qu'à un moment, faut ressortir. On est dans une situation très étrange. Là, la situation de confinement était extrêmement étrange, mais le déconfinement progressif est aussi très étrange. Quand est-ce qu'on ressort? Quand est-ce qu'on manifeste? Quand est-ce qu'on part en vacances? Enfin, tu vois ce que je veux dire. voilà, comment on voit pas le jour d'après, mais le jour d'avant l'après, quoi.
Bah, on est dans une période de transition où nous-mêmes, les hospitaliers, on s'interroge sur nos stratégies pour redémarrer nos luttes, sans que ce soit trop vite et sans que ce soit trop tard. Il faut trouver le bon timing et puis surtout de se fier aux enjeux qui sont réels, donc les enjeux sur notre avenir et la société qu'on veut ensuite, tout en tenant compte aussi des risques de contamination et de flambée du virus, parce qu'on reste quand même nous toujours aussi dans cette crainte, parce que voilà, peut-être qu'on vit une espèce de traumatisme aussi.
Une petite parenthèse, vous restez prudent et vous appelez les gens à rester prudents.
Bien sûr. Oui. On reste prudent et on appelle les gens à rester prudents, mais ceci dit, on appelle quand même à se déconfiner, alors peut-être que on appelle plus vite que d'autres secteurs qui auraient besoin de le faire, parce que là, il commence à y avoir des annonces catastrophiques au niveau de l'emploi, etc., notamment dans l'industrie, avec les annonces sur Renault un mouvement social qui ne reprend pas, qui est très frileux, parce que on est un peu perdu, on est face à un virus, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, et donc il y a un enjeu quand même dans la période dont il faut tenir compte, mais il faut redémarrer. Donc nous, on a décidé au Chublil déjà il y a 2 semaines de déposer un préavis de grève et de recommencer à appeler aux assemblées générales, parce qu'en fait, durant la crise sanitaire, on n'a pas pu nous aller dans les services rencontrer les collègues, lutter contre la propagation du virus, donc il était hors de question qu'on arrive avec notre acte et avec nos habitudes de syndicaliste dans les services. On n'a pas pu réunir d'assemblée générale, ce qu'on a quand même l'habitude de faire avant de démarrer et de redémarrer un mouvement de grève ou un mouvement de lutte et d'action. On a un fonctionnement qui est un peu à l'envers, c'est-à-dire que là, c'est la CGT qui a appelé la semaine dernière à une assemblée générale de plein air dans la cour de l'hôpital Hurier, qui est une grande cour qui permet à des centaines de personnes de se rassembler tout en gardant des distances sociales, et que ce soit pas une source évidemment de contamination, mais même que ce soit pas non plus une source de stress pour ceux qui y participent. Donc notre fédération, donc au niveau national, a appelé justement à ce type d'action en indiquant qu'il fallait reprendre la machine et redémarrer un peu des actions et les rassemblements, et surtout en tout cas pour nous au Chublil, reprendre les discussions avec ses collègues sur ce qui s'est passé, sur ce qui était porté déjà avant la crise et qui n'est toujours pas satisfait, et sur tout ce que la crise a aussi révélé encore plus que ce qu'on croyait.
Et est-ce que tu crois que ce qu'elle a révélé de plus, et ce sera ma dernière question, il faut qu'on fasse vite, mais est-ce que tu crois que ce qu'elle a révélé de plus, est-ce que dans l'ensemble de la population, est-ce que tu peux mesurer un espoir de changement, quoi, par une mobilisation forte ou est-ce que éventuellement le virus aurait des capacités d'endormissement de longue durée sur les masses?
Non, moi je pense pas. Moi je pense que cette crise, elle a révélé des choses et elle a permis une certaine prise de conscience, et puis notamment d'une partie de la population qui n'était pas forcément particulièrement concernée. Maintenant, est-ce qu'ils passeront à l'action, et est-ce que je crois quand même qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y avait des choses dans la vie qui n'avait pas de prix, et la santé, elle en fait partie. Et c'est pas seulement un discours politique, c'est que les gens l'ont vécu là dans leur chair et dans leur famille, en se disant, mais s'il se passe quelque chose, il faut qu'on ait un hosto, il faut qu'on ait des soignants, il faut qu'on ait des réponses quand on a quelqu'un de proche qui risque d'y laisser sa peau. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que la santé, ça doit se situer au-dessus de certaines lois ultralibérale, et que la santé n'a pas de prix et que il faut qu'on défende l'intérêt général, et c'est notre bien commun, quoi, l'hôpital public, et on en a besoin. Et on avait conscience, nous, qu'il allait mal, on savait que c'était à la corde, puisqu'on y travaille et qu'on voit bien au quotidien. Mais moi, je vous le dis, l'hôpital public, il va encore plus mal que ce qu'on imaginait. On a vraiment traversé une période qui nous l'a révélé plus encore que ce qu'on imaginait. Et pourtant, on n'est pas des naïfs.
Eh bien, pourvu que ce constat sur l'hôpital soit partagé sur l'ensemble de la société, puisque finalement, ce qui se passe dans l'hôpital est un révélateur de ce qui se passe dans l'ensemble de la société, hein, c'est pas à part.
Oui. Hein, et des choix qu'on fait, quoi. Voilà, hein, et des choix politiques qu'on fait.
Voilà, tout à fait, et que il y aura... On en reparlera avant le 16 juin, peut-être, Isabelle, ou en tout cas, on se fera l'écho sur Radio Campus de ce qui se passera le 16 juin. Et...
Ouais.
Et éventuellement de voir si c'est le vrai déconfinement.
Voilà. Et si merci. On se donnera des nouvelles d'ici là.
Voilà. Ok. Merci beaucoup, Isabelle.
De rien.
À très bientôt.
Merci.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. De ce que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air, une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations, si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution, je n'ai fait que penser aux autres. Pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation, en ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai à preuve par quatre, s'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul. Je continuerai de me battre, on peut me dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste.
Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Bonjour, Yann Dufour. Alors vous êtes inspecteur du travail, membre du bureau national de la CGT, du ministère du Travail. Vous et votre corps de métier, vous étiez un peu mis sous cloche par le ministère du Travail. Déjà, pour revenir un peu sur les rôles de l'inspection et sur les conditions de l'exercice, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Il y a deux choses qui se passent aujourd'hui. Donc effectivement, il y avait... un certain nombre d'instructions qui obligeaient les inspecteurs à demander l'autorisation pour pouvoir faire des contrôles, et le champ d'intervention des contrôles était très limité. Nous avons saisi l'Organisation internationale du travail par une plainte, et l'OIT depuis a interroger le gouvernement français sur ces instructions-là, puisque manifestement, il n'y a qu'en France qu'il y a eu ce type d'instruction pour l'inspection du travail, que ce soit en Europe ou dans le monde, il n'y a pas d'autres gouvernements qui ont pris ce type d'instruction. Depuis, le ministère a un petit peu changé son positionnement, et depuis quelques semaines, il essaye de réécrire l'histoire en nous envoyant des instructions, nous demandant de contrôler, de nous faire remonter tous les contrôles. Donc notre plainte auprès de l'Organisation internationale du travail a manifestement porté ses fruits, puisque le ministère, la ministre se défend d'avoir voulu restreindre l'action de l'inspection du travail et dit en ce moment exactement l'inverse. Ça, c'est le premier point.
Alors, pour revenir là-dessus, c'était des restrictions qui étaient quand même assez fermes, puisqu'on vous conseillait de rester à domicile, d'arrêter d'effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises pour vérifier la bonne mise en place des consignes de protection des salariés, mais également de référer à la hiérarchie. Et finalement, vous disposiez aussi de peu de protection pour faire ces contrôles.
Oui, absolument. Donc, oui, tout ça, là, on peut être très précis. Il fallait limite appeler l'employeur pour dire qu'on venait, ou voir faire des contrôles par téléphone. Donc, j'imagine bien la bonne foi de l'employeur par téléphone, nous expliquant que tout va bien. Et c'est pour ça que l'Organisation internationale a conseillé que c'était sérieux comme alerte, puisqu'il, très rapidement, il a interrogé le gouvernement français. Alors, on n'a pas la réponse du gouvernement français là-dessus. Et il y a eu, summum de cette mise sous cloche, un inspecteur du travail, Anthony Smith, qui a donc été mis à pied, suspendu, dans l'attente d'une procédure disciplinaire, le soir même où ils avaient saisi le juge des référés, pour pouvoir demander au juge d'imposer des masques, des protections, dans une entreprise d'aide à domicile. Notre plainte a apporté ses fruits, que l'OIT est en train de demander des comptes, et nous avons un dossier particulier, qui est un inspecteur qui est mis à pied depuis maintenant un mois, et le ministre ne communique toujours pas le dossier disciplinaire, et n'a toujours pas engagé de procédure disciplinaire. Je pense que ce dossier est un dossier qui est très embêtant pour l'administration, puisque ils peuvent pas lui reprocher en tant que tel d'avoir contrôlé, d'avoir fait un référé. Et donc pour l'instant, on attend la communication ou pas du dossier, ou alors on attend tout simplement la levée de la suspension. En externe, on a aujourd'hui, il y a 134 000 signatures de pétitions de soutien. Nous avons ça fait un mois qu'il est suspendu, il y a eu donc des rassemblements à Lyon, à Châlons, à Lyon, aujourd'hui à Lyon, il y en a eu à Strasbourg, à Châlons, et puis il y a 1000 agents, donc qui fait à peu près 50% de l'effectif de l'inspection du travail, qui ont signé une pétition de soutien qu'on a adressée à la ministre.
Alors pour revenir sur cette mise à pied, il s'agit donc d'un inspecteur du travail, Anthony Smith, qui travaille donc dans la Marne, à Châlons-en-Champagne, et qui a reçu de sa hiérarchie l'ouverture d'une procédure disciplinaire accompagnée d'une mise à pied immédiate, en fait, parce que tout simplement il faisait son travail, c'est-à-dire il demandait que les droits et la protection des salariés soient assurés.
Oui, c'est ça, en fait, ce qu'a demandé l'inspecteur à une association d'aide à domicile qui comprend à peu près 300 salariés, et on est sur des personnes qui sont âgées, potentiellement malades, et des travailleuses, ce sont des femmes qui sont précaires, qui viennent aider, donner des soins, en tout cas à domicile. Et l'inspecteur a considéré qu'il fallait mettre des masques, des blouses, des charlottes, les changer régulièrement. Et c'est sur cette exigence de masques, notamment des FFP2, qu'il y a eu une levée de bouclier de l'employeur. Et là, la question des masques, du mensonge d'État, où on nous a expliqué au début que les masques ne servaient à rien. Et aujourd'hui, on nous demande d'en mettre de partout. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas de masque à disposition, quoi. Et donc, l'employeur s'est opposé à ça, et je pense qu'il y a eu une vraie crainte d'un effet contagion où l'ensemble des juges, des inspecteurs demandent des masques de protection, notamment des FFP2, qui sont pas uniquement des masques alternatifs, qui sont des véritables masques qui protègent à la fois des postillons qui rentrent et également qui font l'entrée et la sortie, quoi, qui protègent dans les deux sens. Donc, il y avait un mois de suspension et toujours mise à pied. Pour les un mois, je vous l'ai dit, on a transmis 1000 agents qui ont signé une pétition en interne, hein, alors qu'en externe, on est à 134 000. Et comme il est toujours mise à pied, entre le 15 et le 20, on appelle à des rassemblements, pas vraiment des rassemblements, on va mettre des banderoles, des actions de visibilité dans toute la France auprès des directions départementales. Alors, il y en a eu à Châlons le 15, à Strasbourg le 15, hier c'était à Bobigny et à Reims, et aujourd'hui, par exemple, à Lyon, Il y aura des actions de pose de banderoles avec 5-6 personnes avec le masque et la distanciation respectée et des pancartes demandant la levée de la suspension de cette sanction qui n'est pas son nom, puisqu'on attend pour l'instant le dossier disciplinaire. L'inspection, évidemment, on a le code du travail pour contrôler. Et donc là-dessus, on va pas rentrer dans la technique, mais on considère que le virus, le Covid-19, est un agent biologique et qu'il faut donc appliquer la partie du code du travail qui défend, qui protège sur les risques biologiques. Et là, si vous voulez, sur cette question-là, la ministre a décidé de nous envoyer ce qu'on appelle des guides de bonne pratique qui visaient à se substituer au code du travail, et c'est évidemment en deçà. Et donc ça s'appelait des guides de bonne pratique à la fois pour le BTP, pour la grande distribution, et en les lisant, on s'est aperçu que c'était un infradroit en dessous de l'application du code du travail. Et ce qui était très embêtant, c'est que ces guides de bonne pratique ont été communiqués aux employeurs, et ils s'en servent lorsque l'inspection du travail fait des observations, et voire ils s'en servent également lors de référés qui ont eu plus ou moins de succès en fonction des juges et des régions, notamment sur la question des masques FFP2 où la ministre considère que c'est pas une obligation, et si nous on applique le code du travail, on considère que c'est les seuls équipements de protection individuels pour se protéger d'un risque biologique.
Et alors, moi j'ai sous les yeux une tribune qui est parue dans l'Humanité, qui a été signée par, en même temps, votre syndicat, donc la CGT, et la FSU, la CNT Sud du ministère du Travail, mais également le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature.
Absolument, c'est une tribune qui est signée, c'est assez remarquable, hein, des juges, hein, du syndicat de la magistrature, des avocats et des inspecteurs, c'est-à-dire des praticiens du Code du Travail. Et cette tribune a été envoyée à l'Humanité, et le titre, c'est effectivement « Ne confinons pas le Code du Travail ». Donc on a pointé toutes les dérogations à la durée du travail, et depuis, il y a eu encore d'autres dérogations, c'est qu'on a réduit les délais de consultation pour le CSE, l'ancien comité d'entreprise et CHSCT, sur les mesures qu'on prenait pour le Covid. Donc on réduit la consultation des représentants du personnel, et ça a été rajouté. Donc cette tribune a eu son effet. Bon, elle n'a pas, la ministre n'a pas absolument pas reculé, et au contraire a continué. Ce qui est scandaleux dans ces dérogations, c'est qu'elles durent jusqu'au 31 décembre 2020. Donc on considère qu'une fois que le déconfinement aura lieu, ils considèrent qu'il va falloir remettre les bouchées doubles pour pouvoir remettre en cause la durée du travail et travailler un maximum pour rattraper en fait la perte de, ils disent perte de croissance, hein, mais en fait c'est la perte de profit, quoi. Donc il faut absolument recommencer l'activité, refaire du profit, et pour ça on a une dérogation qui dure jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ce qu'on craint, c'est que exceptionnel devienne droit commun. C'est ce qu'on a un peu vu avec les mesures sur l'état d'urgence, où très rapidement il a fallu mettre dans la loi les mesures exceptionnelles sur le droit d'urgence, qui était normalement une autorisation sur une courte durée.
On peut revenir sur ce qu'ont été les aménagements au code du travail, qui sont encore en cours d'ailleurs, jusqu'au 31 décembre 2020.
Oui, il y a eu une volonté de déroger à la durée du travail. Alors l'argument était de dire que, notamment pour les activités essentielles, type commerce, mais commerce de besoins vitaux, la question des transports pour transporter la farine, etc. En tout cas, c'était présenté comme ça. L'exposé des motifs, c'était de dire on a besoin de farine, on a besoin de les gens ont besoin de manger, donc il faut que les travailleurs puissent donner leur maximum, quoi. Sauf que ce décret-là, il s'applique à l'ensemble du code, enfin à l'ensemble des travailleurs, et pas uniquement les routiers ou on pourrait imaginer les boulangeries, des choses comme ça, et encore qu'ils ont déjà des grosses dérogations. Bon, pour faire court, ils ont explosé les durées maximales qui passent de 48 heures à 60 heures. Donc avant, on ne pouvait pas travailler au-delà de 48 heures hebdo, hein, par semaine, et là, on peut maintenant monter à 60 heures. Ils ont également explosé le repos quotidien. On avait droit à 11 heures de repos quotidien. On pouvait pas se coucher, par exemple, à arrêter de travailler à minuit et reprendre avant 11 heures du matin, quoi. Maintenant, ils l'ont réduit à 9 heures. Donc toutes ces dérogations fait que les travailleurs sont surexploités, ceux qui sont dans les activités essentielles. je n'ai pas encore de bilan de l'utilisation ou non de ces dérogations par les entreprises. Est-ce qu'on est vraiment à des explosions de 60 heures pour tous ceux qui sont dans le commerce ou dans le BTP ou dans les transports? Il ne me semble pas. En tout cas, cette dérogation est totalement permise. Il y a eu un grand débat sur les congés, les RTT, où ils ont considéré que, alors en chômage partiel, hein, évidemment, on perd ses RTT, donc on perd en partie ses congés. Mais ceux qui étaient en télétravail, ils ont essayé, ils l'ont pas fait, mais ils ont essayé de dire, vous êtes en télétravail, donc on va vous réduire vos RTT, on va vous prendre vos congés, voire on va vous imposer vos congés, mais ça a été fait dans cette entreprise. Avant, le chômage partiel, c'est une mesure. Il y a la réduction des délais de consultation, ça je l'ai dit, auprès des représentants. Et donc l'angoisse qu'on a, c'est encore une fois que ces dérogations deviennent pérennes, quoi. Et rien ne justifie véritablement ces mesures. C'est plutôt une mesure pour déroger aux 35 heures, etc., enfin, qui existe déjà assez peu, voilà.
Il semble y avoir un autre problème qui concerne les tribunaux des prud'hommes.
Alors c'est pas une dérogation du Code du travail, mais c'est une conséquence du confinement et du Covid. C'est que les prud'hommes ne fonctionnent plus. Les tribunaux sont extrêmement réduits. Leur activité se limite, on va dire, aux comparaisons immédiates sur les questions évidemment essentielles, la protection des enfants et des femmes, bien sûr, et atteinte à l'intégrité physique. Mais du coup, cette activité minimale des tribunaux fait que les prud'hommes ne fonctionnent pas. Et nos procédures pénales, évidemment, ne sont pas suivies. Donc on n'a pas de procès-verbaux, on va plutôt aujourd'hui sur des référés, des lettres d'observation, parce que mettre un procès-verbaux verbal à un employeur qui n'a pas mis de masque ou qui ne respecte pas les distanciations sociales, on sait que notre procès-verbal, il sera pas instruit, donc il risque d'être jugé dans 6 mois, 1 an, quoi. Ce qu'on a demandé, et des parlementaires d'ailleurs sont intervenus par des questions écrites et même par des amendements, mais qui n'ont pas été retenus. On voulait, on souhaite, on demande, on exige en fait un droit exceptionnel d'arrêt d'activité pour risque biologique. Donc ce qui est une mesure préventive à titre conservatoire. On considère que s'il y a un risque biologique, c'est-à-dire un risque de contamination au Covid-19, l'inspection du travail puisse avoir le pouvoir d'arrêter d'activité tant que les mesures de prévention sur le risque Covid n'est pas en place. Alors on a ce droit-là si on voit de l'amiante. On peut arrêter l'activité en cas de découverte d'amiante ou en cas aussi de risque de chute de hauteur d'un salarié sur un toit ou d'ensevelissement, ou de risque également mécanique sur une machine extrêmement dangereuse. Donc on a ces pouvoirs-là. On voit une machine dangereuse, le gars peut se faire happer un bras parce qu'il n'y a pas de protection. On a le pouvoir d'arrêter la machine, hein, pas l'activité mais la machine. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces pouvoirs d'arrêt de travaux soient étendus au risque biologique. Mais à ce jour, on n'a eu aucune réponse.
Est-ce que, alors...
C'est pour ça qu'on est extrêmement démunis, qu'il nous reste uniquement le référé, c'est-à-dire saisir le juge judiciaire pour demander, comme ça a été fait à Amazon, l'activité en contrepartie de mesures de protection. Les procès-verbaux, bah, je vous ai dit, ils ne pourront pas avoir un quelconque effet avant des mois, et donc ils nous auraient souhaité avoir des pouvoirs, on va dire exceptionnels, en période exceptionnelle, pour pouvoir dire à l'employeur, vous arrêtez votre activité tant qu'il n'y a pas de protection pour... On est sur des risques de contamination, quoi. C'est des risques extrêmement graves.
Est-ce que vous avez des échos de comment se sont passées les reprises après
Alors,
les sorties de confinement?
Il y avait une pression énorme de la ministre, hein, sur les employeurs, parce qu'on était monté à 12 millions de salariés en chômage partiel, ce qui est en termes de coûts énorme. Et la ministre a fait pression sur le BTP, qui au début ne voulait pas reprendre. Donc même la fédération du patronat a dit à la ministre que les conditions n'étaient pas réunies pour reprendre. Bon, derrière tout ça, on a l'épisode de l'amiante qui est passé par là, où les gens savent qu'il y aura des procès comme il y a eu sur l'amiante, et ils veulent pas. Et le patronat n'a pas voulu aujourd'hui vraiment reprendre. Puis la ministre a eu des confinements. Et là, ce coup-ci, ça reprend. Et dans le BTP, c'est extrêmement compliqué parce que il faut respecter la distanciation sociale dans le BTP. Vous imaginez sur un chantier, quand on est en hauteur, quand il y a un seul toit qui est accès ou qui est protégé, la distanciation sociale est difficile à respecter. Il y a la question des outils, où on doit se prêter des outils, il faut nettoyer avant. devant. Il y a la question aussi des locaux, hein, où on se change. Là, il faut doubler le volume des locaux pour se changer, des vestiaires, parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Donc, sur les conditions de travail dans le BTP sont particulièrement difficiles. Et le respect des mesures de protection, à mon avis, laisse à désirer. On va faire des contrôles de nouveau là-dessus. Et puis, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a la question, le télétravail est maintenu. On demande de revenir dans les locaux. Toute la question du nettoyage, la question des espaces, nettoyer les boutons, on appuie les portes. Donc ça demande beaucoup de travail. Je ne sais pas si ça c'est respecté partout. C'est sûr que non, à mon avis. Et donc les conditions de reprise sont quand même assez aléatoires. Et on essaie de faire un bilan. On verra le bilan qu'il y a de nos contrôles sur ces conditions de reprise. Là, c'est un petit peu court pour en parler. Mais dans le BTP, c'est évident. Et puis, on verra ce qui se passera dans les entreprises. Maintenant, le télétravail est encore maintenu. Et puis, j'espère que les bureaux type open space ne sont pas utilisés. Alors, c'est peut-être maintenant, peut-être la fin de l'open space grâce au Covid, pour le coup. Mais en tout cas, il y avait quand même des bureaux où les gens étaient à 4-5 pour des raisons d'économie, notamment à Paris, hein. Dans les sièges sociaux, on imagine la Défense, c'est pas un par bureau. Donc moi, je sais pas, parce que je suis pas à Paris. Je sais pas dans quelles conditions se font cette reprise-là, en tout cas.
Comment finalement des salariés qui rencontreraient des difficultés dans leur reprise de travail pourraient se saisir de l'inspection ?
C'est la question de l'accessibilité au service public de l'inspection du travail où maintenant, effectivement, on est en télétravail. Alors, nos lignes professionnelles sont reroutées sur nos téléphones portables, ça a mis un certain temps. Et nos mails, évidemment, on est parti avec nos ordinateurs et tout ça chez nous. Donc, normalement, si vous écrivez à l'inspection du travail par mail, ça arrive sur l'ordinateur des agents qui sont en télétravail, ou même si vous appelez le standard, normalement, c'est rerouté. Donc ça, c'est ce qui est affiché. Hein. Maintenant, en réalité, ça va dépendre de la qualité de l'organisation de ces reroutages ou si les mails ils sont bien retransférés. Donc il ne faut pas hésiter à écrire à l'inspection du travail par mail, par téléphone. Il faut, si vous pensez que c'est nécessaire, il faut demander à ce qu'ils interviennent. On a évidemment le droit de se déplacer. Enfin, maintenant, il n'y a plus d'autorisation de déplacement. On n'a pas encore des masques véritables, on a des FFP2 qui datent de plus de 15 ans. On aura peut-être des masques alternatives. Bon, ça c'est un petit peu c'est l'inspecteur qui apprécie ou non s'il y a un risque. Mais en tout cas, il faut vraiment saisir l'inspection, alerter des conditions, il faut de toute façon laisser une trace de tout ça. Également saisir les organisations syndicales. Et l'inspection, on essaiera de se déplacer. Mais effectivement, vous l'avez dit, déjà aujourd'hui, la moyenne c'est 1 pour 10 000 salariés. Avec ce surcroît, pas de travail, mais de sollicitations spécifiques sur le Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation spécifique à appréhender. Et voilà. Mais il faut écrire, il faut laisser des traces en tout cas. Moi, je dis aux salariés, il ne faut pas uniquement le dire oralement à son employeur, parce que ça ne compte pas. Il faut écrire à son employeur, il faut saisir l'inspection du travail par écrit. Il faut vraiment laisser des traces des conditions de travail. Et alerter les services, et ça peut effectivement, l'employeur il va sentir qu'il y aura une trace et qu'il s'expose à une plainte pénale dans les années à venir, quoi. Ce que je souhaite pas, hein, mais enfin ce que je souhaite pas, ça voudrait dire qu'il y aurait eu contamination, quoi. Mais en tout cas, il faut vraiment laisser des traces écrites.
Et on a vu que cela pouvait porter ses fruits, notamment en période de confinement, puisqu'il y a quand même eu des plaintes notamment contre Amazon ou d'autres entreprises. Il y a d'autres cas.
Si ce qui marche en fait, c'est les procédures de référé. Et c'est pas pour rien que l'inspecteur du travail qui a fait un référé dans une entreprise, dans une association d'aide à domicile, a été suspendu parce que c'est les seules mesures qui marchent. Donc il y a eu des référés qui sont faits par les syndicats, comme Amazon, comme à Sandouville, à Renault, où la CGT a été accusée de porter atteinte à la nation quasiment, quoi. C'était vraiment haute trahison, quoi. Et il y a des référés qui sont engagés par les inspecteurs du travail. Donc on a des référés qui concernent les supermarchés, qui ont été assez efficaces, demandant la pose de plexiglas, le nettoyage des vitres, que les salariés puissent avoir de quoi se nettoyer les mains et durant le temps de pause, ça soit pas du temps de travail, etc. Amazon, bah, c'était les syndicats. On avait vu les images, hein, c'était à la salle de pause, ils étaient les uns sur les autres et aucune mesure n'était faite pour respecter la dissension sociale. Donc c'est assez efficace, ces référés, et quelquefois le juge suit sur la réglementation risque biologique, donc impose carrément des masques FFP2, et quelquefois le juge impose uniquement le port de masque. Donc ça, c'est assez aléatoire, mais il y a un enjeu très important, et aujourd'hui, il n'y a qu'un moyen qui fonctionne, c'est la saisine en référé en urgence. Donc on demande des mesures de prévention, et si les mesures de prévention ne sont pas faites, le juge met une astreinte financière ou décide de fermer tant que les mesures ne sont pas en œuvre.
T'as pas une pipe ?
Non.
T'as pas une moustache ?
Non. Joue.
Jadis les ouvriers alléguaient en turban, comme à l'école content de revoir les copains. Y a un patron qui sous-paye ses fiers travailleurs, séquestrez-le avec nous sur le coup de 4 heures. Mais de nos jours le salariat est bien trop heureux, quand un bourgeois les spolie il s'engueule tant heureux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, tous les conquis sociaux vous passent sous le nez. Tous les conquis sociaux vous passent sous le nez. Mais c'est le code du travail d'antan, les petites conquêtes, 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 conquêtes de nos grands-pères, qu'un gouvernement de sacripants détruit pour le plaisir de nous déplaire. Car quand nous ne sommes pas contents, c'est aux Pinot, Dassault, Arnaud et à ces salauds de milliardaires que vont nos petits écus, que file notre argent. Saloperie de con, contre-réforme. Mais si l'on prend la rue, nous serons les gagnants des conquis sociaux que chanteront nos enfants.
Maintenant quand une usine ne licencie pas, son management pourrit la vie jusqu'au trépas. Quand un employé se tue sur son lieu de travail, sans doute est-ce son ex qui refuse les fiançailles. L'autre jour un directeur des ressources humaines, pour contenter l'actionnaire s'est donné de la peine, chronométrant les postes de tous les employés.
Licenciant sans pitié les gens les moins pressés. Licenciant sans pitié les gens les moins pressés. Mais c'est le code du travail d'antan, les petites conquêtes, 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 conquêtes de nos grands-pères, qu'un gouvernement de sacripants détruit pour le plaisir de nous déplaire. Car quand nous ne sommes pas contents, c'est aux Pinot, Dassault et Arnaud et à ces salauds de milliardaires que vont nos petits écus, que file notre argent. Saloperie de con, contre-réforme. Mais si l'on prend la rue, nous serons les gagnants des conquis sociaux que chanteront nos enfants.
Plutôt que perdre mon temps pour un tout petit SMIC, servir des burgers dégueu dans des déchets plastiques, je préfère profiter de mes jeunes années. Et même tiens, pourquoi pas ne jamais travailler. Oh que revienne le temps des grèves générales, l'époque des avancées dans la lutte sociale, ou quitte à perdre parfois plusieurs mois de salaire.
Les gens avaient à cœur de rester solidaires. Les gens avaient à cœur de rester solidaires. Mais c'est le cas du travail d'antan,
les petites conquêtes, 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 conquêtes de nos grands-pères, qu'un gouvernement de sacripants détruit pour le plaisir, 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 plaisir de nous déplaire. Car quand nous ne sommes pas contents, pas contents, c'est aux Pinot, Dassault, Arnaud et à ces salauds de milliardaires que vont nos petits écus, que file notre argent.
Saloperie de con, contre-réforme.
Mais si l'on prend la rue, nous serons les gagnants des conquis sociaux que chanteront nos enfants.
Mais si l'on prend la rue, nous serons les gagnants des conquis sociaux que chanteront nos enfants.
Écoutez, camarades, écoutez la radio attentivement, les lundis à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Je suis avec Cédric Hafner. Vous êtes un salarié de Aldi, vous travaillez au Aldi de Libercourt et vous êtes aussi à la CGT. Est-ce que vous avez des responsabilités à la CGT?
Bah, je suis délégué syndical sur le périmètre de l'entreprise, secrétaire du CSE et j'ai également un mandat à la fédération CGT Commerce et Services où je suis secrétaire fédéral.
Alors si on vous a en ligne aujourd'hui, c'est parce que... il y a une grève qui s'est installée dans l'entrepôt de Coincy. Donc là, on est dans le Douaisis, hein, si je me trompe pas, donc pas très loin de chez vous. Et avec une lutte donc qui une lutte qui a commencé et qui a continué tout au long de la semaine. Mais avant ça, on voudrait comprendre Aldi. Qu'est-ce que c'est Aldi? C'est du hard discount, hein, on dit toujours comme ça aujourd'hui.
Oui, alors même s'ils essayent de suivre un peu la voie de Lidl pour aller vers une présentation des supermarchés un peu plus joyeux, un peu voilà, plus un supermarché classique et sortir de l'image du hard discount. Mais voilà, le management lui reste du hard discount.
Et ça fait de l'argent, Aldi? Enfin, je veux dire, les actionnaires, ils engrangent des bénéfices?
Ah, ils engrangent beaucoup de bénéfices et c'est très bien organisé financièrement. Il y a un actionnaire unique, donc qui sont les deux frères fondateurs à la base, qui sont parmi les plus grandes fortunes mondiales.
Alors bien sûr, il y a eu le Covid-19 qui est venu bouleverser toutes les activités et mettre en lumière aussi certaines injustices. C'est quoi les conditions de travail chez Aldi avant l'épidémie?
Bah, les conditions de travail chez Aldi, c'est des cadences assez élevées, que ce soit pour la mise en rayon et pour... la caisse, la préparation de commandes, etc. Ce sont, bien souvent, il y a des pressions de par la charge de travail et de par aussi le management sur les salariés.
Et sur le plan des salaires?
Sur le plan des salaires, on est à quelques centimes au-dessus des minima conventionnels. On s'est fait grignoter au fil des années l'avance entre guillemets qu'on avait un peu justement sur ces minimums, qui faisait que malgré les conditions de travail très difficiles, il y avait un intérêt financier à venir chez Aldi parce qu'on gagnait plus.
Et c'est plus le cas aujourd'hui?
Non, c'est plus le cas. L'écart c'est très réduit et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont mené les salariés à exprimer leur mécontentement, c'est que on leur a communiqué justement la grille salaire de chez Lidl, où ils se sont aperçus que pour un même poste de travail, il pourrait y avoir 200 euros bruts de différence. Et voilà, en plus de toutes les causes qui ont mené à l'expression de cette colère, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi. C'est pourquoi on peut faire le même travail et pas être payé de la même façon.
Il y a eu ce Covid. Quelles a été les conséquences directes sur votre travail? Il y a eu plus de gens, moins de gens? Comment ça s'est organisé?
Bah, sur le Covid, en fait, alors il y a eu quelques personnes qui ont dû garder leurs enfants, qui ont eu des symptômes aussi, où ils ont dû rester à la maison. Mais on a fait face à une situation exceptionnelle avec quasiment les mêmes moyens que d'habitude, qui sont déjà pas très élevés, quoi. En termes de d'heures de travail et de recours au personnel.
C'est-à-dire qu'il y a un problème d'effectif? Vous nous dites que vous n'êtes pas assez nombreux.
Oui, alors, il y a des tâches à faire non-stop, si vous voulez. Il n'y a pas de temps mort, il y a beaucoup de tâches à faire en même temps. Bien souvent, et ça c'est quelque chose contre lequel on lutte, c'est que ça entraîne à du travail dissimulé, donc du non-pointage d'heures de travail pour réussir à réaliser toutes les tâches qui sont demandées. Il y a vraiment un effectif très restreint, un effectif vraiment qui suffit pas à faire toutes les tâches et qui entraîne toutes sortes d'inaptitudes, de problèmes psychologiques et de... Et voilà, c'est vraiment, on est vraiment pressé comme des citrons, quoi.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ça se répercute sur le personnel et sur la santé du personnel, j'imagine.
Ah mais oui, ça ça tout à fait. On est régulièrement contacté pour des salariés qui sont dans une impasse parce que tout le monde est contre eux, ou alors on les oblige à changer de magasin, on leur change les horaires à la dernière minute sans leur demander. La plupart des droits ne sont pas respectés, il faut les réclamer, et quand on les réclame, on risque des représailles. Donc c'est vraiment du management par la peur.
Et sur le plan des protections sanitaires, est-ce que vous avez été rapidement doté de masques ou bien de ces protections qu'on voit dans la plupart des supermarchés, c'est-à-dire des espèces d'écrans en plastique transparent?
Ouais, alors, rapidement, c'est peut-être pas le mot. On a dû être assez actif, justement, sur les demandes, sur l'analyse des conditions de travail, sur tout ce qu'on voulait que l'employeur mette en œuvre pour protéger les salariés. Ça n'a pas été facile, il y a eu un petit retard à l'image. Bah après, peut-être dans beaucoup d'autres entreprises, parce que personne ne s'attendait à ça. Finalement, il y a des protections qui ont été mises en place, des plexis, des masques, du gel, des crèmes de soins. Mais voilà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de matériel de protection. Par contre, c'est très compliqué pour Aldi de modifier son fonctionnement habituel, c'est-à-dire en mettant plus d'heures pour la désinfection, en mettant plus d'heures pour le nettoyage. Il y a des mesures qui sont demandées, mais dès qu'il s'agit de moyens humains ou de choses qui vont coûter un peu de l'argent, si on peut dire, là, c'est beaucoup plus difficile pour Aldi. Par exemple, le filtrage. Le filtrage, on est censé avoir une jauge dans chaque magasin qui est définie pour le nombre de salariés, de clients, pardon, maximum à accueillir.
Oui.
Aldi se refuse justement à mettre en œuvre de façon globale sur tous ces magasins et de façon écrite ces mesures. Elle laisse sur l'équipe du magasin la responsabilité de gérer cette mesure.
Ah, donc ils mettent pas les moyens en place pour vous protéger, pour protéger les clients, c'est-à-dire en limitant en effet le nombre de clients dans le supermarché. On voit bien, on vit tout ça, quoi, hein, cette proximité là
dans les
rayons. On comprend bien qu'en limitant le nombre de personnes, évidemment, ça limite le nombre de contacts et la proximité entre les gens. Donc là, c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Alors depuis c'est le déconfinement et alors là il y a des salariés de chez Aldi qui sont pas contents. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez Aldi en ce moment? Et pourquoi est-ce qu'on a eu autant de mal, Monsieur Hafner, à vous avoir au téléphone? Vous sembliez bien occupé ces derniers jours.
Bah, en fait, la genèse un petit peu de ce mouvement, c'est que on était censé donc avoir une prime de participation qui a été annoncée, évidemment. Pas pendant la crise sanitaire, ce qui aurait dû être fait. La période à laquelle s'annonçait, c'est pendant la crise sanitaire. Ça a été retardé pour X raisons, et nous, ce qu'on pense, c'est que ça a été retardé pour que cette grève n'éclate pas en plein confinement, là où justement il y avait l'occasion pour Aldi d'engranger du chiffre d'affaires supplémentaire, parce que la plupart des clients préféraient la proximité, le petit magasin où ça va vite, où on croise moins de monde, et...
Alors de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle d'une prime d'intéressement, c'est-à-dire que habituellement, hein, avant cette crise et les années précédentes, détrompez-moi hein, si je suis dans l'erreur, mais les salariés de chez Aldi ont une petite participation au bénéfice de la boîte.
C'est ça. Alors on a une participation au bénéfice qui peut représenter un salaire, c'est ce que ça représentait il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. L'année dernière, c'était autour de 600-700 euros. C'est la somme à laquelle on s'attendait. Mais, par exemple, il y a une raison qui explique cette colère, c'est que Aldi, d'une part, s'est mis à faire de la pub télé et on sait que ça coûte très très cher. Et Aldi va racheter, par exemple, le Leader Price pour 750 millions d'euros. Ça fait 1 milliard d'euros au total, et même plus. Et derrière, au niveau des négociations, on avait du mal à gratter 10 ou 20 euros supplémentaires de l'heure pour un travailleur du frigo qui va travailler à 2 degrés. Donc il y a toute cette incompréhension qui s'est exprimée, la déception, les primes d'intéressement, par exemple, sur le premier trimestre, alors qu'on a travaillé vraiment dans des conditions terribles et fait plus de chiffres que l'année passée, étaient du même ordre, la prime de participation divisée par 3. Et en plus, pendant la crise sanitaire, on est confiné, qui n'a pas été en télétravail, qui a continué à être en première ligne justement pour la continuité alimentaire de la population. Et derrière, quand on réclame quelques euros alors que de l'autre côté il y a des milliards qui sont dépensés, voilà, les salariés veulent juste un salaire digne pour pouvoir prendre une mutuelle par exemple, parce que c'est pas le cas de tous, pour pouvoir manger correctement parce que c'est pas le cas de tous, et voilà, c'est un peu tout ça qui a mené à l'éclatement de la colère et un débrayage au départ.
On parle parfois de primes dans la grande distribution, des primes spéciales Covid, quoi, pour ceux qui ont continué à, en effet, à assurer cette espèce de service public déguisé, hein, qui consiste à assurer une distribution de l'alimentation pour la population dans les moments difficiles. Chez vous, il y a des primes Covid ou pas?
Alors, il y a une prime Covid qui a été annoncée, qui pourra aller jusqu'à 1000 euros. Alors, c'est tant mieux. Forcément, les salariés qui vont avoir 1000 euros sont très contents. Ça prouve aussi qu'ils ont un besoin de salaire, qu'ils ont besoin de rémunération. Mais cette prime, par exemple, elle sera diminuée pour les salariés qui auraient été absents pour suspicion Covid ou qui auraient été atteints. Donc, c'est un peu... Il y a des critères qui sont pas normaux quand même. Il y a une prime justement pour ceux qui ont travaillé pendant la crise sanitaire. Mais si on a été touché par le virus... Alors, on a une déduction de cette prime, c'est franchement dégueulasse.
Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé exactement le lundi 18 mai?
Donc, nous, on est passé vendredi voir les salariés d'entrepôt pour leur expliquer un peu cette prime qui avait été annoncée, pour discuter avec eux de ce qu'ils en pensaient. Ils nous ont, à ce moment-là, exprimé leur mécontentement. Il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas et ils nous ont dit que ils envisageaient peut-être de débrayer, à voir lundi comment ça se passerait.
Donc la colère vient, soyons clairs, de la baisse de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise.
C'est ça. Et en plus, il y avait une revendication salariale qui était d'augmenter les salaires pour arriver au même niveau que Lidl. C'était les deux revendications des salariés.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce lundi 18 mai?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire qu'à 4h du matin, à l'heure où les premiers salariés commencent à l'entrepôt, on est allé à quelques représentants du personnel les accueillir et pouvoir les encadrer et les aider dans ce mouvement, si jamais il y avait mouvement, parce qu'à l'origine, c'était un débrayage. L'idée, c'était de montrer à la direction que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait un besoin de dialoguer justement sur les salaires et sur cette prime, et d'ouvrir une négociation.
Là, on parle d'un débrayage donc à l'entrepôt de Coincy. Il y avait combien de salariés ont débrayé?
On était une soixantaine au départ.
Sur combien?
Sur l'ensemble, c'est 180, mais sur le niveau de la préparation, on est sur une centaine de préparateurs.
Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Et ce débrayage s'est poursuivi ou comment s'est passé le reste de la semaine?
S'est passé le reste de la semaine? Donc le lundi, on a décidé d'aller vers 9h à la sortie des camions justement pour filtrer un peu et surtout aussi informer les collègues chauffeurs qui passaient par cet endroit des raisons qui nous poussaient à être à l'extérieur, à cesser le travail pour nos revendications. Mmh. Et nous, ce qu'on voulait, c'est ouvrir le dialogue. Et en guise de réponse, on a tout de suite eu un huissier de justice qui est venu faire différents constats, etc. Donc rapidement, les salariés ont décidé de bloquer les accès et de faire pression justement sur une ouverture de négociation en empêchant la marchandise de sortir.
Et ça a duré toute la semaine?
Oui, ça a duré toute la semaine. Après, du coup... On s'est réunis régulièrement en Assemblée Générale des grévistes pour discuter tous ensemble de la situation, pour les informer de ce que nous avions comme nouvelles, que ce soit l'huissier, les documents, leur proposer des stratégies. Et rapidement, il a été décidé de rester la première nuit et ça s'est enchaîné à chaque fois jusque vendredi à l'annonce du résultat du référé.
Voilà pourquoi on a eu tant de mal à vous joindre. Cédric Hafner. Alors, donc, il y a eu ensuite la lutte à son versant judiciaire. Ça passe au niveau du tribunal. Il y a eu un jugement.
Il y a eu un jugement, oui.
Alors, lequel?
Alors, ce jugement, il nous signifie le délogement, l'expulsion du ticket de grève, en tout cas devant les accès, ça ne met pas fin à la grève, mais ça supprime le blocage, que ce soit devant l'entreprise ou alors un peu plus loin sur la voie publique au niveau des accès de l'entreprise.
Et comment réagit alors les salariés en grève, en lutte ?
Forcément avec un peu de déception, mais surtout aussi avec beaucoup d'écœurement face à tous les moyens qui ont été déployés par Aldi pour continuer à livrer ses magasins, donc par exemple à mettre de l'argent pour faire livrer par une centrale dans le sud de Paris, faire 600 km à un camion pour livrer un magasin, recourir à d'autres centrales justement en prenant des intérimaires là-bas pour faire préparer la marchandise pour nos magasins. Après, je vous passe forcément la désinformation, les moyens pour l'huissier, voilà. C'est la perte qu'on essaie de nous imputer, de plusieurs millions d'euros. Et voilà, je pense que les salariés se sont rendus compte du comportement de la direction pour pas ouvrir le dialogue, quoi. C'est-à-dire que les moyens sont présents, mais nous, on fait le choix de pas vous les mettre parce que votre salaire, pour nous, votre salaire, il est au juste niveau par rapport aux tâches qu'on vous demande. Si on peut revenir sur la prime Covid, par exemple. Alors oui, il y a une prime Covid qui représente à peu près 7 millions d'euros, mais s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, il n'y aurait pas eu cette prime. Cet argent était toujours disponible là dans les comptes de l'entreprise au moment des salaires, au moment de la négociation sur les salaires. Cet argent est disponible pour les salaires, mais c'est un choix, bien souvent, de l'employeur de maintenir à un certain niveau les salaires, bah justement pour que les salariés reviennent le jour d'après pour regagner la même chose, parce que sans ce maigre salaire, ils seraient dans une précarité encore pire.
Cédric Hafner, je voudrais finalement vous demander comment va continuer votre lutte, et puis si elle va continuer, et est-ce qu'il existe d'autres moyens d'obtenir des avantages sur le plan des conditions de travail que dans la lutte ?
Oui, bien. Alors évidemment, la lutte va se poursuivre dans les instances représentatives, au niveau de la sécurité, des conditions de travail, où on va être encore plus pointilleux que d'habitude, on va être creusé justement pour voir si l'employeur respecte toutes ses obligations, notamment en termes de protection collective et individuelle face au coronavirus, parce que c'est pas fini. Ensuite, je pense que là, il s'est créé une communauté de travail à l'intérieur d'entreprise qui a pris conscience de tous les enjeux et qui a envie justement de peser, de continuer à peser pour obtenir du salaire supplémentaire, pour améliorer les conditions de travail, pour faire embaucher aussi, parce que on est des entreprises où les primes font qu'il y a une cadence de travail où on pourrait être beaucoup plus nombreux, et c'est aussi un choix d'entreprise de maintenir une rentabilité très très élevée, une productivité horaire très très élevée. Et la lutte, elle va continuer, je pense, en s'organisant. On est déjà en train de réfléchir comment on va faire maintenant pour être dans 3 mois et 1 jour, puisque l'ordonnance nous empêche de rebloquer pendant 3 mois. Dans 3 mois et 1 jour, comment on va faire pour repartir, faire autrement, trouver une stratégie pour être plus efficace et que la perte de salaire des grévistes soit le mieux reparti possible. Alors on est en train de monter avec les salariés un plan de bataille. On a des discussions assez franches, assez régulières avec l'employeur. Il nous arrive de conclure des accords ou de régler des problèmes, parce que ça se fait dans le cadre des IRP. Mais dès qu'on touche à l'argent, dès qu'on veut du salaire, dès qu'il faut faire pression pour que l'employeur utilise ses moyens ailleurs que là où il a décidé, là ça devient très 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 compliqué.
Et ça marche pas, c'est ça que vous nous dites, le dialogue social,
ça marche pas justement. C'est ce que se sont rendu compte les salariés, c'est que là voilà, la grève c'est l'ultime moyen qu'on a de montrer qu'on n'est pas content, quand par l'intermédiaire de ses délégués, quand par l'intermédiaire du faire respecter individuellement ses droits, on n'y arrive pas. Il y a que la grève qui peut permettre de faire cesser des anomalies ou de revendiquer des nouveaux droits.
Mmh. décrocher un carton à la caisse de chez Auchan. Enfin, la vie commence vraiment. J'ai été employé du mois.
Bingo.
Des belles paroles, une tape dans le dos. Mais sur ma paye, pas un euro. Et sur le tableau, y'a ma photo. C'est la valse des articles. J'entends le code barre. Le balai de la caisse automatique, c'est l'extase, la belle équipe. Profitez bien, c'est des stockages. J'entends crier la poissonnière. Y a dû y avoir un arrivage. La course à l'oseille s'accélère.
Dans la grande distribution, on bosse pas pour le pognon. C'est pour l'amour du patron qu'on chante dans les rayons. Dans la grande distribution, on nous prend pas pour des cons. Si on loupe les promotions, on nous presse comme des citrons.
Mes placards sont vides, j'en deviens livide. Faut que j'aille à l'hyper retrouver mes repères. Léopard, je le veux à tout prix, au comptant ou à crédit. Ah oui. Dans les rayons, je consomme sans modération. Sous les néons, je fais de l'âme une aberration. Mon chariot prêt à craquer, j'ai le trophée du plus long ticket. J'achète, j'achète, j'assume, je consomme et je me consume.
Dans la grande distribution, on bosse pas pour le pognon. C'est pour l'amour du patron qu'on chante dans les rayons. Dans la grande distribution, on nous prend pas pour des cons. Si on loupe les promotions, on nous presse comme des citrons.
Pour la grande arnaque, les ventes flash vont bientôt commencer. J'attends tous les caddies sur la ligne d'arrivée. À votre avis, qui sera le premier? C'est la course à la promo. Allez, en avant les excités. 3, 2, 1, 0.
C'est la liquidation, la grande folie des prix canons. On a changé les étiquettes, on t'a perdu dans les rayons. Le moment de vérité, sortons la feuille des réductions. Ta carte de fidélité, de toute façon, crache le pognon.
Travailler toujours plus pour moins gagner. La semaine, le week-end, les jours fériés. Pas question pour nous de faire la grève. Sinon, adieu, le boulot de rêve.
Dans la grande distribution, on bosse pas pour le pognon. C'est pour l'amour du patron qu'on chante dans les rayons. Dans la grande distribution, on nous prend pas pour des cons. Si on loupe les promotions, on nous presse comme des citrons.
Sur nos vies et sur...
on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas.